France Culture.
Et les midis de culture, c'est reparti. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec le réalisateur espagnol Albert Serra. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Il y a 1000 ans, pour la première fois, le nom de la ville de Caen, en Normandie, apparaît dans des registres. Et pour fêter ce millénaire, la ville voit les choses en grand. À partir de demain, un programme culturel, scientifique et festif va se déployer dans toute la ville et ce, pendant un an. Le millénaire de la ville de Caen, c'est le dossier du point culture du jour. Jean-Marie Lévesque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du château de Caen et du musée de Normandie. Alors quand on dit fêter le millénaire de la ville de Caen, qu'est-ce qu'on commémore exactement ?
On commémore la première fois où le mot cadomus, qui est le terme latin qui désigne la ville de Caen, on commémore la première fois où ce mot apparaît dans un texte, dans une charte du duc de Normandie qui évoque ce site, cette localité qui est en train de naître. C'est un des rares exemples où on a un document du XIe siècle, du début du XIe siècle, à une époque où les sources sont rares, qui nous décrit une situation en train d'advenir. Pour asseoir son pouvoir, le duc fait une sorte de distribution de biens, et parmi les biens qui sont distribués et qui apparaissent dans ce texte, on voit une localité qui s'appelle Cadumus, et dans cette localité, le duc donne des parts de la fiscalité, des parts des revenus sur le port, donc il y a un port, sur des marchés, sur une foire, donc il y a une activité économique, sur un grand domaine, donc il y a une implantation du pouvoir sur le site de la ville de Caen. Et donc, on voit apparaître aussi un bourg. Un bourg, c'est pas une aimable bourgade de campagne. Un bourg, au XIe siècle, c'est une agglomération dont les habitants obtiennent des privilèges fiscaux pour créer une dynamique de fondation d'un groupement humain, une ville. Donc, on voit quelque chose qui est en train de se matérialiser, se concrétiser.
Et donc, le château de Caen que vous dirigez aujourd'hui, quand est-ce qu'il advient ? Est-ce qu'il date aussi d'il y a 1000 ans ?
Alors, le château n'est pas aussi ancien, quoique les archéologues et les historiens se posent des questions. On voit dans cette charte 2025 un grand domaine, on voit un bourg. Normalement, dans une trilogie assez banale dans les textes de cette époque, il devrait y avoir un burgus, un castrum, un site de défense au-dessus de ce bourg et de ce port. Mais il n'y a rien dans les traces archéologiques, et il n'y a rien dans les textes qui nous confirme cette hypothèse. Donc il faut attendre la génération suivante, 1025, il faut savoir que Guillaume le Conquérant va naître en 1027, donc on arrive très vite sur la période du règne de Guillaume le Conquérant, et vers 1050, quand le jeune duc est au fait de son pouvoir, on voit apparaître dans la documentation des éléments qui nous disent qu'il y a construction d'une grande muraille sur le relief qui domine le bourg de Caen. On voit apparaître le château et l'archéologie nous apprend effectivement que les éléments les plus anciens de la fortification ne sont pas antérieurs au XIe siècle. Donc le château vient en quelque sorte terminer le travail entamé en 1025. Le château et les deux abbayes, il faut voir l'ensemble constitué de ce grand chantier, c'est la forteresse du prince et l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames, qui sont deux fondations simultanées, qui installent la version ecclésiastique, si je puis dire, du pouvoir qui va créer véritablement la ville.
Alors l'ouverture du château restauré, c'est l'un des événements de ces commémorations du millénaire. Qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir de ce château réhabilité ?
Eh bien, les visiteurs vont pouvoir répondre à une question, en tout cas nous l'espérons, qui était toujours la question que se posaient les visiteurs qui franchissaient la porte du château, c'est où est le château ? La particularité du château, c'est qu'il avait perdu, sous la Révolution française, son grand donjon. Donc il manquait à l'intérieur du site cette verticalité et cette représentation de l'imaginaire du château fort, qui est le grand donjon. De plus, les espaces du château, à travers le temps, avaient été plutôt maltraités, conçus de façon un peu discontinue et morcelée. Il n'y avait pas de vision d'ensemble de cet espace. Donc le grand La grande transformation, c'est une refonte paysagère à l'intérieur des murailles pour redonner unité et cohérence à la visite et à la découverte du paysage architectural qui va se déployer sur un tapis de verdure, un tapis vert qui met en valeur les monuments qu'on s'est préservés dans le château. Monuments qui racontent chacun un siècle de l'histoire de la ville. Il y a des témoignages des 10 siècles d'histoire de la ville préservés dans le château. Et puis, en point de convergence des cheminements, un bâtiment d'accueil dessiné par Philippe Prost, qui était Grand Prix National d'Architecture en 2022, dont la Cité de l'Architecture vient tout récemment de conclure une exposition consacrée à son œuvre. Philippe Prost a dessiné un bâtiment qui va être le pavillon d'accueil, le point central, le point de convergence des visites et le point à partir duquel se redistribuent tous les cônes de vue et tous les parcours dans le site. Donc c'est une intervention de l'architecture contemporaine dans ce site du château et dans ce paysage à la fois naturel et architectural qui va se déployer sous le regard du visiteur.
Caen a beaucoup été détruite pendant la guerre, on l'a beaucoup dit, mais comment expliquer qu'il reste autant de choses à Caen ?
Alors Caen a été détruit mais pas rasé. C'est vraiment un des lieux communs sur l'histoire de la ville de Caen. La destruction des bombardements est importante. Elle concerne le centre-ville, donc elle est d'autant plus sensible dans le paysage. Mais il y a eu de nombreux vestiges qui ont été épargnés. Et surtout, il y a eu un travail de la reconstruction qui était un travail de mise en valeur du patrimoine préservé et de restauration des vestiges, ce qui fait que tous les grands bâtiments historiques de la ville se dressent, mis en valeur dans l'urbanisme de leur construction. Le château est le premier d'entre eux, il se retrouve par la grâce du travail, du projet, les urbanistes de leur construction. Le château se trouve placé au centre des regards, il était autrefois en position de défense au nord de la ville. Dans le plan de la reconstruction, il se trouve au centre d'un schéma d'urbanisme qui s'organise de l'aveu même des architectes de la reconstruction entre la ville reconstruite, les quartiers redessinés après les bombardements, la ville préservée, les quartiers du patrimoine où le château lui-même garde l'essentiel des traces du passé, et la ville du futur qui est le campus universitaire.
Bien, merci beaucoup Jean-Marie Lévesque, on vous souhaite une belle réouverture et puis une belle commémoration à Caen pour ce millénaire. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, demain, un appel à la grève dans le monde de la culture.
Oui, l'intersyndicale du spectacle vivant appelle les acteurs de la culture à descendre dans les rues pour s'opposer aux coupes budgétaires drastiques dans le secteur. Leurs conditions de travail, en effet, se précarisent et leur emploi est souvent menacé. Le désengagement à court au niveau national, gel du pass culture, nouveau seuil de la TVA pour les artistes auteurs ou encore réforme de l'audiovisuel public. Cette année, pour rappel, le ministère de la Culture ne dispose que de 0,6% du budget de l'État et c'est une première en 10 ans. Mais les crédits sont aussi en baisse dans quasiment toutes les régions, avec 73% en moins dans les Pays de la Loire ou 20% en moins en Île-de-France. Et de nombreux départements aussi se désinvestissent de la culture, moins 50% en Haute-Garonne ou encore moins 48% dans l'Hérault. Festivals, théâtres et pôles artistiques doivent déjà ralentir leurs activités. Des manifestations sont prévues demain partout en France.
Reporters sans frontières alerte sur le silence imposé à ces anciens journalistes par le groupe Bolloré.
Selon une enquête diffusée par Reporters sans frontières cette semaine, c'est via des clauses de confidentialité, de non-dénigrement ou encore de loyauté que les journalistes sur le départ sont priés de ne pas s'exprimer sur le groupe Bolloré. Rappelons que celui-ci est propriétaire de nombreux médias, comme entre autres Canal+, Europe 1 ou encore le JDD. Depuis 2015, au moins 500 journalistes qui ont quitté le groupe doivent s'abstenir de dénigrer ou de révéler le fonctionnement de leur ancien employeur. L'ONG s'oppose au cadre réglementaire qui autorise de telles méthodes. Son secrétaire général a expliqué, je cite, que ces clauses aux contours très flous et sans limite dans le temps condamnent les journalistes au silence à vie.
Et pour finir, Marie, une nouvelle collection littéraire va mettre en avant les contes et légendes de nos régions.
Oui, les éditions Grasset vont publier à partir du mois d'avril 24 ouvrages dédiés chacun à une province française d'avant le XVIIe siècle. De 7 à 15 contes et légendes y seront réunis et réécrits par des auteurs contemporains qui ont travaillé en collaboration étroite avec des autrices et auteurs de chaque région. Merveilleuses ou diaboliques, les histoires de la collection La France par ses contes sont destinées à tous les publics. Les quatre premiers territoires mis en avant seront la Normandie, les Outre-mer, les Pyrénées et la Loire.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.